Vous écoutez Radio Panique.
Bonjour, chers amis auditrices et chers amis auditeurs, et bienvenue à notre émission mensuelle Le Chariot. C'est Anna qui vous parle, et merci de nous accompagner sur cette émission qui, à chaque premier lundi du mois, présente une des très nombreuses histoires liées au monde du tarot. Ces auteurs les plus redoutables, des artistes qui se sont dédiés corps et âme pour essayer d'expliquer et de comprendre et de mettre en mots les mystères de la vie et de la mort. Des occultistes, des kabbalistes, des gens qui pratiquent l'ésotérisme, du chamanisme, mais aussi des psychologues, des écrivains, des philosophes et monsieur et madame tout le monde, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons continuer notre promenade au Tarot Museum Belgium, qui se trouve à Malines, en compagnie de son créateur et propriétaire Guido Gelabelle, qui va nous parler de l'histoire du tarot. Vous pouvez écouter la première partie sur le podcast de Radio Panique. Et comme chaque mois, à la fin de notre émission, nous allons connaître un peu au sujet de l'arcane du numéro 14, qui se nomme la Tempérance. Et comme vous avez déjà l'habitude, j'aime illustrer l'émission en musique et faire plaisir à nos invités. Dans l'immense collection de Guido dédiée au tarot, nous trouvons aussi de la musique. Donc, vous allez écouter trois morceaux de l'album Tarot Suite de Mike Bett, considéré comme un des meilleurs auteurs-compositeurs de la scène musicale anglaise, qui se situe dans le domaine de la musique classique populaire. Donc, voici le premier morceau de cet album Tarot Suite de Mike Bett, And Friends. Notre première intervention musicale était choisie de l'album Tarot Suite de Mike Bett and Friends. Guido m'a raconté qu'il a créé et édité plusieurs jeux de tarot. Et comme il a pratiqué aussi la photographie, nous pouvons apprécier sur sa collection des photos faites par lui qui illustrent ses créations. Je vous invite tout de suite d'écouter l'interview que Guido Gelabelle m'a très gentiment accordée, qui nous parlera un peu de l'histoire du tarot et de son musée.
Je peux expliquer de l'histoire du tarot, où ça commence.
Il y a des gens qui disent que le tarot ordinaire, les cartes à jouer, que ça vient du tarot. C'est pas vrai. Donc les premières cartes, les cartes à jouer, les tout premiers, ça vient d'ici, donc il dit, la Belgique n'existait pas à ce moment-là, mais les Pays-Bas, l'Allemagne et tout, et ce sont des cartes hunting games, des cartes de chasse. Mais je parle de la fin du XIVe siècle, à ce moment-là, l'imprimerie n'existait pas encore. Tout était fait à la main et c'était fait que pour la noblesse. Donc, les premières cartes viennent ici d'Europe, mais c'était vite fait sur les cours de noblesse en Europe. Et cette période-là est le début du XVe siècle. Tout ce qui était l'art, la philosophie et tout, était concentré dans le nord d'Italie. Venise, Milan, Florence, etc. Mais à ce moment-là, il n'y a qu'un pouvoir en Europe. C'est l'Église catholique, le pape. Il n'avait pas rien d'autre, parce que si c'était une autre idée.
Oui.
Donc les cartes à jouer existaient déjà. Mais aussi, c'est la noblesse, parce que tout se fait à la main. Alors, à un certain moment, et c'est pas rare, dans l'Église, mais moi je parle de l'Église, il y avait deux églises à cette période-là. Il y a l'Église politique, c'est moi qui dis ça, hein, et il y a l'Église ésotérique, les mysticiens, les moines, les monastères et tout, et les poètes, etc. C'était deux différentes choses. Oui. Donc dans le côté spirituel, on va dire, ils ont un certain moment pensé, parce qu'on n'est pas sûr, hein, pourquoi le premier jeu est fait. Hein. Donc la famille de Visconti, qui est une famille très riche, elle qui donnait beaucoup de l'argent au monastère, et eux, ils ont demandé de faire un jeu pour un mariage. Et là, c'est les Visconti Sforza. Les Visconti, ce sont les plus anciens tarots. Mais, vous savez, le Visconti Sforza, il n'avait pas 78 cartes. Hein. Tout au début, on pense qu'il y a 16 ou 17 arcanes majeurs. Et c'était surtout les vertus, les choses importantes, parce que dans les idées donc, des catholiques mystiques, je veux dire, hein, ils voulaient un livre, parce que les gens ne savaient pas lire ou écrire, et ils ont ajouté des cartes, comme maintenant on dit les arcanes majeurs, mais les mots arcanes et tout sont très nouveaux, hein, parce que ça n'existait pas avant. Oui. Donc, on va ajouter des cartes sur le jeu ordinaire pour apprendre les idées, les philosophies du catholicisme. Parce que beaucoup des cartes, ce sont, comme on dit maintenant, des archétypes vraiment catholiques, et en plus, certaines idées sont déjà beaucoup plus anciennes. Par exemple, le chariot, il est déjà écrit par Platon en français. Donc, il voulait ajouter des idées aux cartes à jouer. Donc, ça veut dire on joue et en même temps, on apprend un jeu spirituel et un jeu pour s'amuser. Tous les jeux, tous les Visconti sont faits à la main. Et surtout dans les monastères. Hein. Dans cette atmosphère, je veux dire, le tarot est né. Hein? Ah, oui. Mais qui a dit ça? Et pourquoi cette carte et cette carte? Parce que les premières cartes, le Visconti, il n'a pas de nom, il n'a pas de numéro.
Oui.
Donc comment on sait dire qu'il manque des cartes? Parce qu'il n'a pas de numéro. Mais il y a le Visconti Sforza, hein, mais on a aussi le Carriel Visconti. Il y a 5 Visconti tarot. Et de certaines, il n'y a que 2 ou 3 cartes majeures même. Mais le Carriel Visconti, dans le tarot classique, on a le roi, la reine, le chevalier et le valet. Dans le Carriel Visconti, il y en a 6. On a le roi, la reine, le chevalier, femme chevalier, valet, femme valet.
Ah, ça c'est rare.
C'est très, très, très bizarre.
C'est très
donc,
intéressant.
Il y a tout le monde, ou chaque artiste, ou quoi, parce que ça on ne sait pas, il faisait comme il voulait. Et donc, alors, à un certain moment, ils ont dit, parce qu'ils aiment bien jouer aussi, mais bon, quand toi tu as un jeu, on va dire, de 70 cartes, et l'autre a un jeu de 72 cartes, et l'autre un jeu de 69 cartes, ça va pas, hein. On sait pas jouer, et voilà. Donc, à un certain moment, ils ont dit, écoute, 78. Mais pourquoi 78? Parce qu'il y a 4 suites. C'est bizarre, parce que dans un jeu ordinaire, il y en a que 3. Il y a le roi, la reine, et
le valet.
Il en a 3. Mais quand on va chez les couleurs, surtout les Espagnols, ils ont aussi 3. Et c'est le roi, et le chevalier et le valet. Il n'a pas de reine. Donc, dans le tarot, on a tout. On a les quatre. Et donc, à un certain moment, ils ont dit très vite, 78 cartes, ils ont numéroté, ils ont tout mis.
Et je pense que ça vient des monastères.
Ça, je ne peux pas dire
que
c'est vrai. C'est ça que je pense.
Ah, ok.
Ça, ce n'est pas histoire. L'histoire, c'est que les tout premières cartes sont faites au début du 15e siècle pour les Visconti.
Pour les Visconti, oui.
Et alors, on a aussi le Charles VI tarot, qui n'est pas français, et qui n'est pas fait par Charles VI, parce que c'est une erreur, on a dit, qui vient de Ferrara, l'Italie. Et donc, c'est ça pour l'histoire.
Oui.
Donc, le tarot, il vient de l'Italie, le nord de l'Italie, au début du 15e siècle. Ce qui est presque sûr, c'est qu'il y a de l'influence des Français, surtout sur la numération, parce que très vite, le tarot, il est passé par la France. Eux, ils ont transporté le tarot dans le reste de l'Europe. Hein. Tout ce que vous voyez ici sont des cartes postales avec des cartes anciennes.
Des cartes anciennes, oui, c'est beau.
Et il en a peut-être 300-400, je ne sais plus, peut-être plus. Et ils jouent tous avec des jeux ordinaires. Jamais avec des tarots,
oui.
Jamais avec des cartes oracles, jamais avec le normand, jamais, jamais. Donc, c'est toujours des tarots, des cartes à jouer. Toutes les cartes anciennes, mais aussi les gitanes. Parce qu'il y a des gens qui disent que le tarot vient des gitanes. Les gitanes n'ont jamais joué avec les tarots. On ne trouve aucune image dans l'histoire où il y a une gitane avec des tarots. Aucune. Toujours avec les cartes à jouer. Parce qu'ici, par exemple, sont des etchings, des anciens, gravures et tout, et des magazines de 1800, et c'est, il n'y a que toutes les cartes anciennes. Et il y a aussi plein de cartes avec des gitanes, et c'est toujours avec des cartes à jouer. Jamais avec des cartes Lenormand.
Okay.
Parce que je veux bien dire aussi, Mademoiselle Lenormand n'a jamais vu ces cartes, hein. La mademoiselle, normalement, utilisait aussi des cartes ordinaires, hein, des cartes à jouer. Ça, c'est le grand Lenormand. Et ça, c'est le tout premier Lenormand qui est fait quelques années après sa mort par un admirateur. Ça, c'est un livre de mademoiselle Lenormand, et même avec sa signature. Et ça, c'est un livre quand elle était au prison. Parce que mademoiselle Lenormand, elle était très pauvre, hein, quand elle a commencé, mais à la fin, elle était très riche. Elle travaille pour la noblesse, pour les gens dans la politique. Et une de ses clients, c'était Joséphine, la femme de Napoléon. Et à un certain moment, donc, le gouvernement français, ils ont décidé que Napoléon devrait divorcer de Joséphine parce qu'elle ne savait pas lui donner un garçon. Mais ils avaient peur de mademoiselle Lenormand parce qu'elle connaît tout le monde dans le politique, donc elle connaissait beaucoup de secrets. Alors, le gouvernement a décidé de lui mettre en prison toute la période de la divorce. Et ça, il n'avait pas un problème parce qu'en France, et surtout à Paris, c'était défendu de dire le futur pour l'argent. Alors, ils l'ont mis dans la prison.
Ah.
Et ce livre-ci a été signé par elle, avec sa signature, ce livre. Et ça, ce sont les visions qu'elle avait en prison. Et elle a écrit ça dans un livre. Son arrestation était au 18-9 et le livre est au 18-14.
When you're losing your way.
Voilà, c'était le morceau de l'album Tarot Suite de Michael Betts and Friends. Guido m'a raconté qu'entre 1771 et 1781, il y avait en France Cour de Gébelin, personnage que nous avons déjà parlé dans les émissions précédentes, qui a écrit les 9 livres qui se nomment « Le monde primitif » et « Les originaux » se trouvent dans son musée. Et que c'est Cour de Gébelin, le tout premier dans l'histoire, qui fait la relation entre le tarot et l'ésotérisme. Guido continue son histoire en racontant que monsieur était là, que nous connaissons déjà également. Et si vous n'avez pas encore écouté nos émissions, sachez que vous pouvez les faire quand vous voulez sur le podcast de Radio Panique. Donc, comme je disais, monsieur était là a été fort inspiré de Gébelin et en possession de sa collection « Le monde primitif », quand ce premier a disparu, M. Etela a pris les tarots et a changé des images avec les motifs égyptiens. Mais Guido insiste que ce soit bien clair que l'œuvre de M. Gébelin n'a rien à voir avec l'Égypte et que c'était M. Etela qui, en possession de l'œuvre, a tout changé pour les motifs égyptiens. Guido connaît l'histoire de chaque jeu de son musée et c'est vraiment incroyable sa connaissance et expérience à ce sujet. Nous pouvons découvrir dans ce musée, entre d'autres auteurs, plusieurs jeux de messieurs étaient là, comme des cartes à jouer et des oracles faits pour pratiquer la magie. Évidemment que certains noms restent très importants pour les histoires qui accompagnent le tarot. C'est pour cela que nous parlons souvent des gébelins, Etela, Wirth et autres. En plus de toutes sortes de cartes exposées dans le musée, nous pouvons découvrir aussi des objets très curieux qui parlent du tarot et des cartes, évidemment. Et il y a même un jeu de cartes en braille. On continue notre promenade et Guido me parle de messieurs sur la bousca de la fin du 15e siècle et c'est le premier tarot où toutes les 78 cartes ont des images illustrées. Dans une autre vitrine, nous découvrons le tarot d'Oswald Wirth, que nous n'avons pas encore trop parlé dans notre émission, mais qui sera programmé pour la prochaine émission Le Chariot. Nous découvrons aussi dans ce curieux musée des jeux de tarot de ses amis privés qui sont tous des œuvres d'art. Et il y a ceux qui viennent de Suisse, un autre de Japon, un autre magnifique qui vient d'Inde et qui parle des dieux hindous. Si vous vous promenez avec Guido dans ce musée, vous apprenez l'histoire du tarot car il nous raconte chaque détail de ses histoires, chaque anecdote et il y a beaucoup à nous raconter. Donc, il faut prendre son temps et savourer chaque pas que nous faisons, car à chaque mouvement, nous découvrons encore des merveilles de ces jeux imaginatifs, des emballages de sucre, de cavas, de bouteilles, de chaussures, des grands créateurs, des allumettes, enfin, tout un monde à découvrir. Guido nous raconte encore qu'à l'époque ancienne, quand le tarot était né, il n'y avait pas encore de relation entre le bien-être et les couleurs. Ça n'existait pas encore. Les couleurs étaient choisies plus par des soucis financiers. Ça veut dire le prix du matériel. Par exemple, le bleu était tiré de cette magnifique pierre semi-précieuse lapis-lazuli qui était trop chère. Donc, ils utilisaient d'autres couleurs moins chères. Tout était basé sur le marketing. Et on ne parlait pas du bien-être par les couleurs, chose très répandue actuellement. Et il y a des tarots faits en perles, des tarots japonais, argentins, etc., des tarots païens, des jus en bois de cannabis, des tarots faits par des maîtres bijoutiers basés sur le doudouisme fait en cachemire, des tarots faits de noix. Nous pouvons voir dans ces musées insolites des vitrines pleines de jeux de cartes de toutes sortes, d'une richesse unique. Des artistes qui ont fait des jeux de cartes avec des photos de personnes de certains pays le plus pauvre du monde, comme le Tahiti, par exemple, où nous pouvons admirer le peuple de ce pays représenté comme des arcanes du tarot. Et on continue notre parcours pour découvrir les plusieurs types de tarot de Marseille. Mais chacun vient des villes différentes. Ils ne sont pas tous faits à Marseille, comme Guido m'a bien expliqué. Les tarots de Marseille ont été imprimés à Paris, surtout entre 1890 et 1930. Guido me racontait que plus de la moitié ne sont pas imprimés à Marseille. Ce sont des tarots français. Et que, à ce moment ancien, il y avait une loi qu'il fallait demander une autorisation pour imprimer les cartes jouées. Et il y a quelques-unes qui ont été faites à Marseille, mais aussi à Paris, Strasbourg, Lyon, Rouen et Ancora. Donc, les cartes étaient imprimées dans différentes villes de France. Mais en 1930, Paul Marteau, des éditions Grimaud, disait que le tarot était très populaire, surtout à Paris, et Guido me montre sa collection de cartes postales datées entre 1890 et 1930, qui prouve bien que, en ce moment-là, à Paris, la cartomancie était très populaire. Donc, pour attirer ce public parisien, M. Marteau a décidé de choisir un nom exotique. Et comme à ce moment-là, Marseille était très loin, il a mis le nom de Ancien Tarot de Marseille. Et on fait l'amalgame en pensant que le tarot vient de Marseille. Et nous apprenons avec Guido que c'est plutôt des jeux parisiens. Et en plus, il y a changé au fur et à mesure les impressions du battleur, arcane du numéro 1 entre les arcanes majeurs, en dessinant des dés qui, à cette époque, depuis les temps immémorables, étaient connus par les gens comme un moyen de voir l'avenir et la bonne fortune. En rajoutant des dés dans l'arcane du numéro 1, le battleur, il a lancé l'idée que par le tarot, on pouvait aussi voir l'avenir. Voilà pour les passionnés du tarot. C'est une bonne idée d'aller visiter le Tarot Musée Belgium à Malines et vous allez rencontrer Guido qui va vous montrer son musée avec passion et vous émerveiller avec les plus ou moins 2500 jeux de tarots anciens et contemporains, jeux de voyance, gravures anciennes, oracles, gadgets rigolos au sujet du tarot. Pour trouver l'adresse de ce musée insolite, allez sur Internet, tapez Tarot Museum Belgium et vous allez très vite rencontrer tous les renseignements nécessaires.
Lady of the dawn, you opened up my sleeping eyes. I never knew that I was born. Well, I like you for your body, but I love you 'cause you're wise. I am your oh, my lady of the dawn. You are the dealer in this strange, uncertain game. Take my cards and deal again. I can feel my life is changing, woman. Now you've taught me how to learn. Teach me to earn the love you give to me. The love you give to me. Lady of the dawn, you opened up my sleeping eyes. I never knew that I was born. Well, I like you for your body, but I love you 'cause you're wise. I am your prisoner, oh my lady of the dawn. I was waiting like you for your body. But I love you 'cause you're wise. I am your prisoner, oh my lady of the dawn.
C'était la troisième intervention musicale d'aujourd'hui, Lady of the Dawn, un morceau de ce magnifique album qui s'intitule Tarot Suite de Mike Bett and Friends. Et voici l'arcane du numéro 14 qui se nomme la tempérance. C'est l'évolution d'une situation vers une autre. C'est une lame très positive qui vous annonce dans un tirage du tarot un moment de changement positif, donc un changement qui vous fera grandir. Dans la symbologie de cette lame, nous pouvons voir un personnage féminin ailé qui nous fait penser à un ange. Cet arcane tient deux cruches d'où circule un liquide qui peut être peut-être de l'eau, liquide qui circule dans les deux sens. Cela voulant dire que cet être a un pouvoir, celui de faire circuler les énergies harmonieusement. Donc c'est un arcane qui symbolise la circulation des énergies. Au niveau professionnel, c'est une lame de bienveillance qui peut représenter la diplomatie, les médiateurs, celui qui fait la liaison entre deux situations ou personnes. Elle met en relation les uns et les autres au moment opportun et fait avancer les projets. La tempérance nous demande de la patience, avoir un regard compréhensif sur certaines situations qui parfois sont difficiles, et cette lame vient nous dire que tout finira bien, que tout est dans la bonne voie. Si, dans un tirage, l'arcane 14, la tempérance, vient vous rendre visite, sachez qu'elle vous invite à sortir de votre torpeur. Allez voir vos amis, parlez, souriez, passez de bons moments, entourez de personnes qui vous aiment et que vous aimez. Cette lame dégage un sentiment d'équilibre et d'apaisement. C'est le conscient et l'inconscient. Mots-clés de cet arcane, équilibre, communication, échange, réussite, patience, harmonie, calme, transmission, réconfort, fertilité. C'est en alliant les opposés qu'il sera possible d'élever son âme et son esprit. Les ailes que cet arcane porte dans son dos sont là pour en témoigner. L'âme a du mouvement, mais il est lent, mais continue. Il faut de la patience. C'est un alchimiste ou une alchimiste. Cette lame transforme les énergies, jonction du masculin et du féminin. Les amants attendent la plénitude. Cet arcane nous rappelle encore que la vie, c'est un perfectionnement éternel et constant. C'est la carte de l'évolution. Elle vous invite à avoir de la patience, discipline et une méthode. Voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission Le Chariot d'aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera le 5 septembre à 14h30 où je vous attends nombreux. D'ici là, soyez heureux et heureuses. Prenez bien soin de vous et restez à l'écoute des Radio Panique, 105.4 FM. Au revoir.